Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Bernard Poirette.
Avec qui vais-je refaire le monde ce vendredi soir au micro de RTL? Il y a Roland Cayrol, politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse. Roland, bonsoir.
Bonsoir Bernard.
Il y a aussi Yvan Levaille, qui est journaliste. Yvan, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis, l'éditorialiste du Figaro, Yvan Rioufol. Bonsoir, bonsoir Yvan. Plus Cécile de Sèze de RTL.fr, qui nous rend compte de ce que disent les internautes de l'actualité. Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
Que disent les internautes, Cécile, du fait que M. Jean-Marie Le Pen a été confirmé en justice aujourd'hui président d'honneur du Front National? Il a été confirmé aussi exclu des troupes du Front National. Du coup, il veut aller au congrès de Lille les 10 et 11 mars prochains. Et on veut l'en empêcher, bien sûr, puisque selon les gens du Front National, les actuels patrons, il n'a rien à y faire. Est-ce que c'est baston garanti à la porte du congrès de Lille? Qu'en disent les internautes?
En tout cas, Bernard, ça ne déplairait pas aux internautes. Kersey se délecte d'avance et estime qu'il serait savoureux de le voir se faire sortir par le service d'ordre du FN. Qu'ils se battent entre eux, se réjouit Michael. Ce qui est bien avec Jean-Marie Le Pen, c'est qu'on ne s'ennuie jamais, s'amuse un autre internaute. Et un autre ne pense pas que la force publique va se fatiguer à accompagner Papy fait de la résistance. Beaucoup de commentaires tournent autour de l'âge de Jean-Marie Le Pen à 89 ans et du fait du temps de la retraite. La vieillesse est un naufrage pour l'âme. Il faut savoir céder sa place. Il devrait se consacrer à d'autres tâches ou encore Papy devrait prendre sa retraite. C'est pas bon de vieillir en macérant dans l'aigreur. Et Charles de conclure, je ne sais pas si la haine de leur fille maintient la bonne santé des pères, mais à 89 ans, celui-là a l'air de péter la forme.
En tout cas, Jean-Marie Le Pen, il y a une heure sur RTL, a dit qu'il comptait bien y aller et qu'il ne comptait pas demander l'aide de la force publique pour rentrer au Congrès où, selon lui, il a toute sa place. Qu'en pensez-vous, Roland Cayrol?
Écoutez, on a déjà vu ça, puisqu'il y a déjà eu un congrès qui est intervenu après le jugement de première instance. Il n'a pas vraiment osé essayer d'entrer dans le congrès. Il s'est montré un peu aux abords du congrès. Ça lui a permis d'avoir quelques télés. Je pense que ce qui se passe, c'est ce qui se passera cette fois-ci. Qu'est-ce que vous voulez? La Cour d'appel confirme qu'ils n'ont pas respecté les règles, qu'il est toujours membre du Front National et qu'il devrait donc garder son titre de président d'honneur. Entre-temps, les statuts ont supprimé le titre de président d'honneur.
Il n'est plus adhérent.
Il n'est plus adhérent. Et on a supprimé la fonction de président d'honneur.
Mais c'est de ça qu'ils vont débattre au Congrès. Donc il dit, moi je suis président d'honneur, j'aimerais bien avoir mon mot à dire.
Eh bien, il n'a pas son mot à dire puisqu'il n'est plus membre, qu'il a été exclu du Front National. Donc c'est une absurdité. Il ne peut pas entrer et sa fille a fait savoir qu'il ne pourrait pas entrer au Congrès. Et moi, je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais moi, si, à 89 ans, on me dit que le service d'ordre du Front National ne me laissera pas entrer quelque part...
J'essaye pas de m'y protéger.
Je veux bien aller protester à la télévision, mais je ne suis pas sûr que j'y vais, quoi.
Il nous a dit qu'il avait plein de supporters qui l'aideraient peut-être à rentrer.
Mais non.
Bon, on verra bien. Et vous, Yvan Levaille? Pardon, excusez-moi, Yvan Rioufol. Excusez-moi, nous avons deux Yvan,
deux
c'est
Yvan.
Rare ici.
Ah, oui. Ça nous arrive.
Je vous en prie.
Imaginons qu'il puisse rentrer, a priori, il se fait siffler par une grande partie de la salle, si j'ai bien compris, donc ce n'est pas très intéressant pour lui. Alors je comprends bien sa psychologie qui le pousserait peut-être à en découdre, mais il frise le ridicule. J'imagine en effet que l'âge venant, la sagesse venant, il le trouvera peut-être plus sain de ne pas rajouter quand même dans cette image désastreuse que donne la politique en règle générale, qui est de se prendre souvent pour des cours de récréation, et là, pour un match de catch, parce que ce serait presque ça, parce que s'il doit se confronter, mais ça a été dit, s'il doit se confronter au service d'ordre, donc moi je pense qu'il n'ira pas, je suis un peu de l'avis de Roland, mais parce que je ne vois pas très bien l'intérêt qu'il en aurait, mais en même temps, peut-être a-t-il envie de surprendre. Je crois qu'il serait plus efficace, et je crois que c'est ce qu'il a en tête, à vouloir écrire ses mémoires, parce qu'il écrit, il publie son premier tome qui sortira une semaine avant, et je pense qu'il aura plus intérêt à être sur les plateaux de télévision à expliquer pourquoi sa fille fait n'importe quoi, plutôt que d'aller dans une salle où il sera sifflé, où il ne pourra pas se faire entendre.
Deux polémistes donc disent qu'il n'ira pas.
Et vous, non, mais il ira peut-être pas loin, il ira peut-être à 100 mètres de là.
Au bistrot à l'entrée.
À 100 mètres.
Moi, je vais vous choquer, peu importe qu'il y aille ou qu'il n'y aille pas. Moi, je préfère m'arrêter un instant à la décision des juges. Je la trouve intéressante parce que une bonne partie de sa vie, Jean-Marie Le Pen a dénoncé la justice en France en disant voilà, je gagne toujours. Mais il s'est trouvé qu'une fois, il a perdu et il ne gagne pas toujours.
Non, il gagne pas toujours.
Là, il a gagné. Et d'une certaine façon, je me dis qu'après tout, c'est pas mal de le voir se ranger comme ça en disant qu'est-ce que c'est ? On me retire mon titre, on veut me retirer mon titre de président d'honneur du Front National. Mais pardonnez-moi, le Front National, c'est Jean-Marie Le Pen. Et moi, je fais partie, je l'ai dit plusieurs fois à ce micro, mais on ne m'entendait pas ou on ne voulait pas m'entendre.
Alors, redites-le.
Moi, ce que j'aime chez Jean-Marie Le Pen, si vous voulez, c'est qu'il n'a jamais voulu accéder au pouvoir. C'est un grand démagogue qui est médiatique, comme le dit sa fille. Il est médiatique et cultivé. Et j'ai toujours considéré que sa fille, Marine, elle veut arriver au pouvoir dans n'importe quel bagage et avec n'importe qui et à n'importe quel poste. Mais comment dire, c'est grave de dire ça à une fille, à une jeune femme que certains considèrent comme charmante, lui dire, écoute, tu es moins bonne que ton père. Je trouvais que le père était très bon dans le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie. Et c'est pour ça qu'il est devenu médiatique. Et donc, il est président d'honneur. Jean-Marie, il faut y aller, quoi. Bon.
Non, mais c'est vrai. En fait, vous désespérez que le Front National ne soit plus le Front National. Je comprends, en effet.
Non,
parce que c'était aussi un bon
punching. J'aime pas les produits allégés, vous comprenez ?
C'est ce qu'il dit de sa.
J'aime pas le Coca-Cola sans sucre, sans rien. J'aime pas la fausse bière sans alcool. Jean-Marie Le Pen, c'est l'alcool du Front National. Buvez, bon Dieu.
Ah, excellent. 19h25 sur RTL. Deuxième thème dans un instant. Bien sûr, on va parler d'ici 20h de l'affaire Hulot. Ne vous énervez pas, tout ira bien. Mais on va d'abord parler de la Corée, si vous le voulez bien, parce que Kim Jong-un, l'épouvantable satrape de Pyongyang, il a fait un coup excellent, là, avec l'ouverture des Jeux. À tout de suite.
RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde avec Bernard Poirette.
Vous avez peut-être regardé à la télévision la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver avec cette union des deux Corées, en tout cas la petite sœur du méchant de Pyongyang qui était là dans la tribune officielle avec le président de Corée du Sud. Les athlètes qui ont défilé ensemble, etc. On rêve complètement. Il y a trois semaines, les Américains voulaient les vitrifier. Là, aujourd'hui, on leur file le tapis rouge pour aller skier. Enfin bon, d'accord. Donc, qu'en pensent les internautes, Cécile de 16, est-ce qu'il leur semble que Kim Jong-un, avec sa tête et ses ambitions folles, quand même fait un très beau coup diplomatique et est d'ores et déjà gagnant des Jeux d'hiver?
Bah, c'est en tout cas un échec des États-Unis hein, pour Bibi, une honte pour l'Amérique entière, juge l'internaute qui rappelle que Trump avait juré que les USA ne participeraient pas aux JO en même temps que la Corée du Nord. Si la Corée du Nord se rend aux Jeux, nous n'irons pas, c'est ce qu'avait affirmé le chef d'État américain. Mais son vice-président Mike Pence a pourtant été pris en photo, comme vous l'avez dit, assis à côté de la sœur du dictateur nord-coréen. Dans l'ensemble, les internautes ne sont pas dupes. Blablabla, bla, commente un lecteur qui dénonce une opération de com et ajoute qu'un régime autoritaire de ce type ne peut s'ouvrir sans s'écrouler. Hélène, qui n'a aucune confiance dans la Corée du Nord, dénonce des faux-semblants et de l'hypocrisie à l'opposé. Et Cardan salue une bonne initiative diplomatique pour renouer le dialogue et imagine pourquoi pas un traité de paix.
Ça fait une semaine qu'on croule sous les documentaires sur la Corée du Nord, notamment sur Arte. J'espère que vous en avez vu un ou deux qui étaient formidables, où on racontait comment ça fonctionnait là-bas, de l'autre côté du parallèle. C'était incroyable. Qu'en pensez-vous, Yvan Youfol? Est-ce qu'il a fait un très beau coup quand même, là, le gars?
Oui, il semblerait, mais d'abord, c'est pas la première fois que les deux Corées se rencontrent.
Non, troisième fois.
Ils s'étaient vus au jeu de Sydney en 2000, ils s'étaient vus ensuite en 2004, je crois, en 2008, enfin, etc. Enfin, c'est quand même une habitude. Mais moi, ma première pente aurait été d'applaudir, dans le fond, à ce que ces deux pays ennemis se rencontrent, etc., et semblent s'unir. Mais c'est vrai que j'ai été convaincu assez vite, d'ailleurs, j'ai pas eu besoin de me gratter beaucoup, par les spécialistes de la Corée, et singulièrement par Pierre Rigoulot, qui fait un très bon papier dans le Figaro aujourd'hui, et qui naturellement remet les pendules à l'heure, et qui explique quand même qu'il ne faut pas être naïf naturellement et qu'il y a là une formidable opération de propagande, bien sûr, qui est faite pour banaliser ce régime, mais il faut quand même se rappeler quel est ce régime épouvantable. C'est-à-dire c'est une dictature, bien sûr, c'est une dictature qui, avec des camps qui pour y mettre les prisonniers politiques, avec des exécutions publiques, etc. Et c'est aussi, naturellement, un pays qui est en train de faire une course à la bombinette et qui menace aujourd'hui à peu près tout le monde ou la Terre entière.
Trump aussi, hein, il a sa bombinette. Bientôt.
Oui,
hein.
Enfin, je fais davantage confiance à Trump. Je sais qu'on a peut-être une divergence là-dessus, mais moi, Trump me fait moins peur. Et donc, voilà, je suis de ceux aujourd'hui qui sonnent l'alarme également en disant attention, ne vous endormez pas, n'endormez pas vos vigilances. Naturellement, c'est une opération de propagande qui est très bien faite, mais je ne vois pas que sous prétexte d'une ouverture, on arriverait à régler le problème. Je crois que cette ouverture cache une fermeture. Une fermeture d'autant plus importante que ce pays est devenu complètement impénétrable à toute raison.
Sans le vaille.
Moi, je trouve formidable d'assister en 2018 à une petite réédition, parce que c'est en tout petit, des Jeux Olympiques Moscou. De 36.
Ah non, 36.
Voulu, souhaité, désiré par Hitler. Et alors, je ne sais pas si ça va se passer de cette façon-là, mais Hitler a pris aux Jeux Olympiques qu'il voulait grandioses, mondiaux, pour épater la planète, et dire « Voyez la force des sportifs allemands !» Il a pris une claque formidable lorsque des Noirs...
Jesse Owens.
Vous rendez compte, Jesse Owens, des gens...
Sauf que là, c'est pas Kim Jong-un qui organise...
C'est la Corée du Sud qui organise. C'est pour ça que je dis,
une réédition en tout petit. Les dictateurs ont une formidable envie de se servir de cette caisse de résonance pour dire, vous voyez, on est normaux, on est presque normaux. Voilà.
Il avait l'air pas du tout d'accord avec vous.
Moi, j'espère, pardon, j'espère que quelqu'un dira à Trump, lui demandera des nouvelles de sa sœur aussi, en disant, et ta sœur, là, t'as la sœur de l'autre à côté de toi.
Et vous, Yvan, Roland Quayrol, pardonnez-moi.
Écoutez, non, deux fois déjà, vous l'avez dit, les deux Corées ont été réunies sous le même maillot. Ça n'a strictement rien changé. Donc ça ne changera pas plus cette fois-ci. C'est une pure opération de communication, mais pour les deux Corées. Parce que la Corée du Nord, vous en avez parlé, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, je ne vais pas en rajouter, mais la Corée du Sud, c'est aussi quand même bon pour elle de savoir que pendant qu'elle organise les Jeux et que c'est son image à elle qui va être présentée, qu'il est déjà depuis deux jours, puisque ça a commencé avant même l'ouverture. Il faut qu'elle montre que cette Corée du Sud, elle est capable d'organiser mondialement des Jeux qui seraient plus beaux encore que tous ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Et pour ça, c'est bon pour elle d'avoir la paix avec son voisin, en tout cas,
au moins pendant 15
le temps
jours.
Des Jeux. Ouais. Voilà. Et de ce point de vue, c'est bien joué pour les deux Corées. Et d'ailleurs, si vous regardez...
D'ailleurs, c'est le président sud-coréen qui a demandé à ce qu'il puisse venir, parce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir de leur pays.
C'est la Corée du Sud qui invite.
Et si vous regardez les réactions de la Maison-Blanche à l'ensemble de ces préparatifs, ils ont été beaucoup plus furieux contre leur allié de la Corée du Sud que contre la Corée du Nord, parce qu'elle s'est prêtée à cette palinodie. Ils sont furieux en ce moment contre la Corée du Sud, les Américains. Donc voilà, je crois que ce sont des jeux de rôle dans un système de communication mondiale. Comme je me fiche un petit peu des Jeux Olympiques d'hiver, je suis très content que les gens puissent le voir pacifiquement. Si tout de même, j'ai vu un truc hier, alors j'imagine qu'il va y en avoir d'autres, je crois que ça s'appelle le curling, et en l'occurrence...
Oui, vous connaissez
pas. Et en l'occurrence, par équipe mixte.
C'est un truc écossais.
C'est absolument génial, c'est la pétanque, mais sur la glace.
Oui, avec des boules qui pèsent 40 kilos.
Et voilà.
Et alors, ils sont bons, les Coréens, là-dessus
Les Coréens, il n'y en avait pas, il n'y avait que des Chinois et des Canadiens. Il paraît qu'il n'y a toujours que des Chinois et des Canadiens.
Extraordinaire, Roland Quayrol découvre le curling à son âge.
Parce qu'entre minuit et 2h du matin, je suis resté fasciné. Qu'on puisse faire de la télévision avec un truc aussi emmerdant. C'est absolument fantastique.
Vive les Jeux et vive la Corée.
C'est tout à fait étonnant. 19h34 sur RTL.
Mais il ne faut pas regarder la télévision.
Allez, il est temps de parler de l'affaire Hulot. Si affaire il y a, ça, on va pouvoir en discuter dans un instant. A tout de suite.
On refait le monde dans RTL Soir.
Bernard Poirette.
Et je refais le monde ce soir avec deux Yvan, Rioufol et Levaille, ainsi qu'un Roland, Quayrol en l'occurrence, plus Cécile de Sèze, qui scrute ce que disent les réseaux sociaux. Alors que disent les réseaux sociaux de l'affaire Hulot ? Aujourd'hui, il s'est passé plein de choses encore, puisque on a appris le nom de la personne qui avait eu affaire à M. Hulot, qui est la petite-fille de François Mitterrand, la fille de Gilbert Mitterrand. Tout ça s'est passé avant l'an 2000. Elle a attendu 11 ans pour porter plainte, parce qu'elle ne voulait pas en fait le traîner en justice et l'emmener en prison. Mais elle voulait marquer le coup quand même, parce qu'elle, sans doute, elle n'arrivait pas à s'en remettre. Bon, ok. Et puis, finalement, la question se pose de savoir maintenant si cette affaire Hulot est un pétard totalement mouillé et l'affaire est réglée, ou c'est un vrai problème pour le ministre de l'Environnement, qu'en disent les internautes.
importante.
Plus que Nicolas Hulot, c'est toute la classe politique qui en prend pour son grade. Ce lecteur s'insurge. Ce qui est invraisemblable, c'est que sur environ 70 millions de Français, on ne parvienne pas à décoter 22 ministres et secrétaires d'État politiquement corrects, de bonne moralité et sans antécédents. Parce que là, c'est le pompon. Les noms de Dominique Strauss-Kahn et Gérald Darmanin reviennent plusieurs fois dans les commentaires. Chipi se désole. C'est à se demander s'il existe seulement un seul juste dans ce gouvernement. Mais les internautes débattent surtout autour de la question viol ou pas viol. Par exemple, Mehdi ne comprend pas pourquoi Nicolas Hulot n'a pas porté plainte pour diffamation. Il ajoute en citant Martine Aubry, plus le temps passe et plus je me dis que cette histoire est floue. Et si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Adoc, lui, met en doute la parole de l'Hebdo, le journal qui a sorti l'information. Pratique ces vieilles affaires, ça permet à un journal encore inconnu hier de faire un carton à sa sortie.
Le fait est que dorénavant, tout le monde sait ce qu'est Hebdo, sans aucun doute. Mais enfin, ils ont fait un boulot de journaliste, ils sont allés voir la jeune fille, elle leur a parlé. Alors, ça peut se discuter aussi, c'est encore un des éléments de discussion possibles. Yvan Levaille, comment vous voyez cette histoire? C'est un pétard mouillé ou pas? Il y a eu classement parce qu'elle s'est manifestée trop tard. Hein. On est bien d'accord. Hein. À l'époque, c'était 10 ans. Elle est arrivée 11 ans après. Et
Elle a fait exprès,
dit son avocat. Elle a fait exprès parce qu'elle ne voulait pas rester en justice contre Hulot. Elle voulait simplement marquer le coup et qu'il n'oublie pas et qu'il sente le vent du boulet. Ce sont les propres mots de l'avocat de la jeune femme.
Oui, écoutez, vous dites pétard mouillé. Moi, je dis que c'est plus grave que tout, parce que on avance dans ce 21e siècle et on ne tient absolument pas compte des dernières leçons. Moi, pour moi, la dernière leçon dans cette affaire, c'est l'affaire qui n'en est pas une. Il faudrait démontrer que c'est une affaire. C'est l'affaire Baudis. Dominique Baudis, l'ancien maire de Toulouse, qui a été, si je ne m'abuse, ministre quelque temps,
exact.
Qui a été fils d'un homme très respectable, qui a été aussi maire de Toulouse. Et Dominique Baudis a été président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Oui.
Or, il a été accusé par des proxénètes et des prostituées de Toulouse, qui étaient couvertes par des politiciens minables aussi. Et il a été accusé de fréquenter des lieux sadomasochistes et de...
Des balais roses, des balais
etc.,
bleus,
etc. Tout ce qu'on veut. Oui, c'est ça, balais roses, balais bleus, et ainsi de suite. Et cet homme, pour se défendre... Alors lui, il n'est pas venu se défendre 24 heures avant la diffusion de la nouvelle... Il est venu 24 heures après. Et il a débarqué sur TF1 et l'opinion, car l'opinion juge toujours, il a transpiré à grosses gouttes pendant ce passage à l'antenne. Ensuite, on l'a accusé, on a dit, évidemment, il vient à TF1, c'est sa chaîne, c'est le patron de CSA, il fait ce qu'il veut, il décide, il est venu, et ils ont été complaisants. Et sur la chaîne de service public... Alors, il y a une autre chaîne aussi avec un monsieur qui s'appelait Carl Zéro, qui a fait beaucoup contre Dominique Baudis. Vous voyez, il y a toujours des journalistes ou des animateurs, parce que je ne sais pas si Carl Zéro était journaliste ou animateur. Mais enfin, Carl Zéro a joué son rôle, et une prostituée est venue avec un voile, pas un voile qui fait hurler Yvan Rioufol en face de moi, mais avec un châle, accuser Dominique Baudis en direct. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, on a appris... Des années après que Baudis est mort, il a été décoré, il y a eu une cérémonie aux Invalides et tout. Il n'a jamais subi, lui et sa famille, une chose aussi atroce. Je voudrais qu'on se le dise. Maintenant, l'autre chose que je tiens aussi à dire ici. Qu'est-ce qui nous oblige, nous, journalistes? Alors, je sais bien que le temps judiciaire, le temps d'impatience de l'opinion et que le temps médiatique ne coïncide plus. Ils n'ont jamais coïncidé, mais ils ne coïncident plus. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit reproduire immédiatement à l'antenne, parce que les réseaux sociaux le font, etc. Est-ce qu'on doit reprendre quelque chose qui sort dans un journal de... Il n'y a pas une affaire dans le Hebdo. Il y a une faute d'orthographe d'ailleurs, parce que c'est un hebdomadaire sans H.
Oui, mais
ils n'ont pas eu le temps de le mettre, c'est un tout nouveau journal. Mais seulement un des dirigeants sympathiques c'est Saint-Exupéry. Il a un très joli nom, Saint-Exupéry. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. J'en ai marre de ces histoires où on passe trop de temps dans les chambres à coucher. Bon. Il y a un monde fou dans les chambres à coucher. On pourrait pas en sortir pour s'occuper de politique et de corruption et d'autres choses ?
Roland Quayrol, comment voyez-vous cette affaire-là au point où elle en est ? Et c'est pas fini, écoutez, sans doute. Ça va pas s'arrêter ce soir.
Au point où elle en est, d'un côté, il n'y a pas d'affaire. Puisque les deux cas, après cette enquête méthodique...
Et le procureur qui a classé a dit, il n'y a pas matière même. Hein,
voilà.
Il n'y a pas matière.
Donc, oui, enfin, donc, en tout cas, une affaire est classée sans suite parce que c'était de toute façon hors délai. Et pour l'autre cas, la personne considérée dit elle-même qu'il n'y a rien.
La jeune femme, il n'y a
donc,
rien.
Pour le moment, il n'y a pas d'affaire.
Et il y a deux plaignantes, pardonne-moi Jean.
C'est ça.
Il y a deux plaignantes. Et la première plaignante... dit...
dit qu'elle s'est pas plainte.
Mais qu'est-ce qu'elle que c'est que cet article ? Elle dit c'est pas vrai. Oui. Elle dénonce la véracité de l'affaire. Et l'autre
c'est ce que
dit,
j'ai essayé de dire plus rapidement.
Je n'en suis pas.
Dites, Roland.
Donc il n'y a pas d'affaire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça ne va pas poser des problèmes encore à Nicolas Hulot dans les semaines qui viennent. Parce qu'on en est là. Et c'est pareil dans plusieurs affaires en ce moment. Les gens se disent, oui mais attention... S'ils ont commencé comme ça, c'est peut-être qu'il y a des biscuits derrière et qu'ils vont feuilletonner, comme le dit Serge, le patron de Libération, Laurent Geoffrin, à propos de l'hebdo. Et donc, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres ? Par exemple, vous avez entendu dire que sur l'affaire Tariq Ramadan, où déjà, là, il a aussi deux accusatrices, mais qui...
argumentent
et qui y vont. Mais on parle des 11 autres qui sont en train de s'interroger sur le fait qu'elles vont venir ou pas déposer plainte. Et ça serait même une des raisons pour lesquelles on tient à le garder en détention, en préventive. Donc voilà, ce qui est extrêmement malsain dans cette affaire, c'est que plus encore que les affaires qui existent ou qui n'existent pas, et qui n'existent pas tant qu'en justice elles n'existent pas, eh bien, certains de vos confrères, pour alimenter la rumeur publique, sont assez contents de faire savoir que c'est peut-être pas fini pour autant, et qu'on va voir ce qu'on va voir. Et moi, ça me fait bien plus peur encore. Cette espèce de climat... Tout ça n'est quand même pas net, hein. On commence comme ça. Jeu Darmanin, d'accord, peut-être qu'il n'a pas violé, mais qu'est-ce qu'il faisait dans un club échangiste ? Pourquoi il a accepté d'aller lui acheter du dentifrice ? Enfin, je trouve qu'il faut faire quand même très attention maintenant à la façon dont on traite les gens.
Jean et Beaumarchais, c'est d'abord rumeur légère, petit vent rasant la terre.
Alors, ce qui n'empêche pas...
Oui, c'est,
ce qui n'empêche
tu crains la suite de ça.
Ce qui n'empêche, exactement. Oui, mais on n'arrête pas. Et on n'arrête pas, et il faut faire aussi attention à ceux qui sont directement impliqués dans ces affaires, n'en profitent pas pour dire n'importe quoi. Je prends Nicolas Hulot, quand il va chez Jean-Jacques Bourdin, il n'a pas besoin de dire, il n'a pas besoin d'ajouter au fait que lorsque la plainte a été déposée, c'était déjà fort clos, ce qui est la vérité. Il n'a pas besoin d'ajouter, et les enquêteurs, d'ailleurs, ont établi qu'il n'y avait pas de quoi mener une enquête.
C'est faux.
C'est lui qui le dit. Les enquêteurs n'ont jamais dit ça. Oui, mais chacun en profite pour tirer un petit bout de la vérité vers ce qui est leur vérité. Et évidemment, c'est pas bien d'ajouter quelque chose qui est faux parce que ça peut ajouter à la suspicion. C'est pas bien que Hebdo nous dise qu'il est la nouvelle presse. C'est la presse la plus invraisemblable telle qu'on l'a connue depuis les années 30. Et d'ailleurs, les auteurs de cette investigation ne sont pas des nouveaux journalistes, mais sont déjà connus pour des investigations qui ont parfois été discutées dans les journaux où ils étaient auparavant. Donc attention à tout ça.
Ils disent qu'ils ont des preuves, mais ils ne les sortent pas.
Non, parce
on
que,
le leur demande
parce
pas.
Que, c'est pour
pourquoi
ça
ils ne les ont pas sortis ?
Parce qu'ils vont feuilletonner, par exemple.
Alors, Youfol, comment percevez-vous cette affaire-là ?
Je suis horrifié. D'abord, je suis horrifié que l'on puisse parler de journalisme avec ces méthodes-là, qui sont des méthodes qui, naturellement, recyclent ce qu'il y a de pire aujourd'hui dans le journalisme bas de gamme, c'est-à-dire le voyeurisme, le ton moralisateur, le ton inquisitorial, et cette manière très pudibonde aujourd'hui d'avoir à exiger des hommes politiques qu'ils aient des comportements irréprochables.
Je note quand même que l'avocat n'a pas du tout chargé nos confrères d'Hebdo tout à l'heure sur RTL. Il a dit, eux, ils ont fait leur boulot.
Non, ils n'ont pas fait leur boulot.
En revanche, ce qui est scandaleux, c'est que le nom de Mme Mitterrand...
D'abord, ils n'ont pas fait leur boulot. Parce
qu'il attend lui aussi la suite.
Je ne vais pas reprendre, mais il y a deux accusations, dont une qui est démentie par eux-mêmes, d'ailleurs, dans le papier, en disant que cette femme n'a jamais rencontré Hulot. Mais malgré tout, il la compte comme étant une possible victime. Et puis, cette autre femme qui a dit aujourd'hui qu'elle ne voulait pas que ce soit ébruité à ce point et qui en effet a un compte à rendre, mais que de toute façon l'affaire est prescrite, donc il s'appuie sur des faits qui n'existent plus aujourd'hui, enfin juridiquement, si le, mais bien sûr si on doit respecter les règles de la démocratie, mais ceci est un vain mot. Mais surtout, je pense, pour aller plus au-delà et peut-être d'une manière plus polémique, je crois que l'on vit là aussi les conséquences que nous étions quelques-uns à percevoir du phénomène balance ton porc, qui naturellement a été justifié quand il s'agissait de Weinstein, mais qui a alimenté également tout un processus de dénonciation aux anonymes, avec ce qu'on a connu durant la guerre. C'est un petit peu la même chose, hein, parce qu'elle était une dénonciatrice anonyme avant que l'on sache qui elle était, et avec une inversion de toutes les valeurs. C'est-à-dire que c'est non seulement il n'y a plus de présomption d'innocence, non seulement c'est à l'accusé d'avoir à se disculper, à prouver la preuve, mais même, on a entendu Jacques Toubon, le défenseur des droits, réfléchir à haute voix pour se demander s'il ne fallait pas en effet faire en sorte qu'aujourd'hui que ce soit l'accusé qui ait à prouver
C'est-à-dire changer nos règles judiciaires. Oui,
changer les règles judiciaires, c'est-à-dire balayer naturellement la prescription, balayer la présomption d'innocence et faire en sorte que celui qui est accusé par la présumée victime soit immédiatement coupable, et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, le pauvre Hulot, il a été effectivement plaidé pour son innocence devant la télévision. Donc je trouve qu'on est dans un système totalitaire épouvantable, où il n'y a plus aucune règle juridique, et ce qui aurait dû être le rôle de la justice, c'est-à-dire d'avoir à trancher des questions qui nous échappent parce qu'on n'a pas les éléments, est délégué aujourd'hui aux médias, et même à des médias qui sont vraiment des médias qui ne jouent pas leur rôle de journaliste, pour trancher en fonction de moralité douteuse, et en fonction d'une pudibonderie qui nous fait revenir au 19e siècle ou pire encore.
10 secondes,
oui,
Roland.
Oui, juste ajouter, parce que j'ai parlé des parties prenantes à l'affaire qui en rajoutaient. Madame Pascal Mitterrand et son père Gilbert Mitterrand ont quand même déclaré à la presse qu'ils ont tenu au bout de leur fusil Nicolas Hulot et que c'est probablement à cause de ce dossier que Nicolas Hulot n'a pas osé présenter sa candidature présidentielle ni en 2007 ni en 2012. Je rappelle simplement à la famille Mitterrand qu'il a été candidat.
Oui.
Qu'en 2012, en l'occurrence en 2011, il a présenté officiellement sa candidature aux primaires.
Oui.
Des écologistes et des Verts, qu'il a été battu par Madame Eva Joly, 52 à 48, et que c'est la seule raison pour laquelle il n'a pas pu aller ensuite à la présidentielle. Mais ce fusil-là, c'était un fusil à bouchon.
Moi, je dis, faisons très attention, Bernard. Bernard, écoutez, on ressort Mitterrand dans une histoire politique qui passe par les chambres à coucher. Il y a trop de monde dans la chambre à coucher. Moi, je voudrais que les gens sortent des chambres, que les journalistes en sortent.
Je suis d'accord avec vous. Je voudrais qu'on sorte de ce monde de justiciers.
Et je dis, pour l'instant, on s'en prend aux grands et aux médiatiques. Moi, je crains que si on continue comme ça, faudra revoir le film de Clouzot, Le Corbeau.
Sûr,
on va s'en prendre à des tas de petites gens. On va vous accuser,
d'avoir violé. Sauf que nous avons été beaucoup de gens ont applaudi à Balance ton porc parce qu'on voyait là une libération de la parole. Et on n'a pas voulu analyser ce qu'il y avait derrière cette libération de la parole.
C'était
aussi une incitation à la délation. Il y avait les deux. Je suis d'accord avec toi.
19h49, on se laisse quand même 3 minutes ou 4 pour le dernier thème, parce que ça, c'est très grand public aussi, les histoires de cigarettes traficotées par les fabricants, excusez-moi. Alors, c'est pas traficoté, en fait, ça fait 50 ans qu'ils faisaient des trous dans les filtres. Hein. Oui, tout de suite.
RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde avec Bernard Poirette.
Yvan Rioufol, Yvan Levaille, Roland Quayrol pour refaire le monde, Cécile de Sèze avec les réseaux sociaux. Vous savez que les associations de défense et de lutte contre le tabagisme attaquent les fabricants de cigarettes en disant ils font des trous dans les filtres, et donc, du coup, toutes les mesures qui sont marquées sur les paquets de clopes, là, disant le taux de goudron, de nicotine, etc., etc., sont fortement minorés, parce que en fait, les cigarettes sont aérées, en quelque sorte, grâce aux trous dans les filtres. Bon, ça fait 50 ans qu'ils font des trous dans les filtres, et pourquoi ils se réveillent au bout de 50 ans ? Qu'en disent les internautes ?
Pour Step, de toute façon, le tabac est le produit commercialisé le plus mortel et de loin, et rien n'est fait pour l'interdire. Ils proposent alors que la poursuite pour mise en danger de la vie d'autrui soit automatique pour tous les fabricants et vendeurs de cigarettes. Pour Aux Armes, se réveiller en 2018 pour dire que la composition n'est pas au niveau annoncé, ça ressemble à, je cite, du foutage de gueule. Beaucoup d'internautes, de toute façon, jugent que ces révélations ne changent rien depuis que les taux de nicotine et de goudron ne sont plus affichés sur les paquets. Et Pépère, lui, pointe la responsabilité des fumeurs qui fument volontairement, alors qu'ils assument. Un poil défaitiste, ce dernier internaute se demande si les fabricants de ces poisons commercialisés seront inquiétés un jour.
Pardonnez-moi, mais il n'y a plus les taux de nicotine et de goudron sur les clubs?
Non, depuis janvier 17.
Ah, donc, depuis un an.
Depuis qu'il y a le paquet neutre.
D'accord. Eh bien, écoutez, ça m'avait échappé. J'ai pas dû avoir un paquet de clopes en main depuis ce temps-là. Qu'en pensez-vous, Roland Carreau? Vous avez une minute chacun. Beaucoup moins que pour Hulot.
Je ne comprends pas. On a inventé ces histoires de mettre des trous dans les filtres à cigarettes pour rendre les cigarettes moins dangereuses, disent les fabricants, pour que passe moins de goudron et de nicotine, et pour laisser l'air prendre une partie du goudron et de la nicotine.
Alors, apparemment, c'est exactement l'inverse.
Et il y a beaucoup de sites aujourd'hui sur comment fumer mieux, qui dit prenez plutôt des cigarettes qui ont des filtres avec des trous, qui par ailleurs sont celles qui sont vendues en France pour 97% des cas, donc on risque pas de trop se tromper. Et de temps en temps, et vous le dites, ça fait plus de 50 ans qu'ils le font, et théoriquement, pour que les cigarettes soient moins nocives. Bon. Et on découvre de temps en temps, alors la dernière grosse affaire, la dernière grosse plainte, c'était au début des années 80, où déjà on a exactement dit la même chose, ça a été jugé, et ils ont recommencé à faire leur filtre à cigarettes avec des trous, parce qu'ils estiment que c'est mieux. Alors, ce qui est nouveau dans la plainte d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont trouvé un nouveau motif de la plainte, c'est que c'est l'idée qu'on ne mettrait des trous dans les filtres que pour empêcher que ça se sache, parce que les machines qui font les essais pour l'État notamment ne fument pas de la même façon que nous, si j'ose dire. Ils ne cachent pas les trous avec notre bouche ou avec nos doigts, et du coup on croit que les cigarettes sont encore plus efficaces.
Ce qui est faux.
Et de surcroît, les spécialistes de ces choses-là et qui veulent empêcher les gens de fumer disent sur les sites que j'ai consultés, mais la meilleure façon qu'ont toujours eu les gens, sachant que c'était ça, ça a toujours été justement de mettre leurs doigts ou leur bouche à l'endroit où il y a les trous pour pouvoir consommer plus de nicotine.
D'accord.
Alors pourquoi est-ce qu'ils n'enlèvent pas les filtres alors, carrément?
Parce qu'il y a le sentiment quand même que ça ne se fait plus de fumer sans filtre.
C'est comme fumer des brunes.
Quand je fumais, c'était sans filtre.
Ça n'existe plus du tout. Il y a très peu de gens qui fument sans filtre.
Ah bon, même les brunes?
Il n'y a déjà presque pas de cigarettes sans filtre, donc vous imaginez.
Les Gaulois, c'est toujours sans filtre.
Non, il y en a avec ou sans filtre, effectivement.
J'en pense rien, parce que j'ai rien compris à cette histoire-là. Enfin, s'il y a un scandale, c'est d'avoir dénoncé ce scandale qui existe depuis 50 ans, parce que là, c'est complètement illogique, c'est irrationnel. Pour le reste, je vois bien qu'on veut faire un filtergate avec la même procédure que ces voitures qui trafiquaient leur pot d'échappement pour les mêmes, d'une manière automatique. C'est le même principe. Le pot d'échappement, d'une manière automatique, il remplit les normes, et quand il en le met sur la route, ça ne remplit plus. Ce n'a plus du tout les mêmes cases. Et pour le filtre, c'est la même chose. Mais très franchement, je ne comprends pas pourquoi cette belle au bois dormant se réveille maintenant. Je ne sais pas. Il me manque un élément.
Si et vous, Yvan Levaille, la dernière
Je suis comme vous tous, c'est-à-dire je ne comprenais pas vraiment, d'abord parce que je ne fume pas, et j'ai compris. Parce qu'en général, quand on ne comprend pas, il faut demander à plus savants que vous.
Oui.
Ce qu'on ne fait pas assez, d'ailleurs. Et donc, il y a un professeur qui s'appelle Martinet. C'est un sacré nom, d'ailleurs. Martinet.
Lui, il sait, puisqu'il est à l'origine de la plainte.
Oui, peut-être il est à l'origine de la plainte. Mais je vais vous dire comment il m'a fait comprendre, moi, ça.
Ouais.
Et il dit simplement, et ça tient en un mot et en un compte. Aujourd'hui, quand vous fumez une cigarette, et les gens disent ça, ils disent tu fumes toi? Oh moi, j'en fume deux, trois dans la journée,
c'est rien.
Eh bien, quand vous fumez une cigarette, avec les petits trous des cigarettiers, eh bien, c'est comme si vous fumiez quatre cigarettes, cinq cigarettes.
Oui, mais c'était déjà vrai il y a 20 ans.
Oui, mais c'était vrai, on le savait déjà.
Aujourd'hui, on en sait plus qu'avant, parce qu'on
vendait peut-être plus de tabac de par le monde, et la cigarette n'était pas cancérologue comme elle l'est.
Je crois qu'on cherche foutre la trouille par tous les moyens, et que ça marche pas.
Yvan Rieufol, Yvan Levaille, Roland Quirol, Cécile de Sèze ont tenté, autant que faire se peut, de refaire le monde ce soir au micro d'RTL. Il est 19h57, on s'arrête un instant, il y a le flash de 20h et après ça, il y a du football. Saint-Étienne, Olympique de Marseille. À tout de suite.